Bienvenue au podcast Madame Innove, épisode numéro 7. Vous écoutez le podcast Madame Innove dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et n'oubliez pas de visiter madameinnove.com. Bonjour, je suis Mégane, votre fervente admiratrice. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Amélia, une chiropracteur qui a lancé son propre cabinet il y a maintenant 2 ans. Elle nous raconte son parcours du combattant entre ses études, son job étudiant et son prêt jusqu'au lancement de son cabinet. Une aventure humaine sous le signe de la persévérance et d'une bonne dose de courage. Bonjour Amélia.
Bonjour.
Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton univers et donc du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots?
Oui, sans aucun souci, bah bonjour. Alors moi c'est Amélia, j'ai 29 ans, je suis chiropracteur et entre temps j'ai eu plein d'autres activités professionnelles. Je suis chiropracteur depuis 4 ans, j'ai effectué mes études à Paris et pour justement payer mes études, j'ai eu également une activité pendant 8 ans au sein d'une entreprise de bricolage où j'ai bossé le week-end et ça m'a permis d'avoir un petit complément. Donc pour résumer un petit peu, sinon mon parcours après le bac, j'ai toujours voulu être kiné. Or, 2 ans après le bac, à 18 ans, on manque un petit peu de méthodologie, donc je me suis un petit peu perdue dans mon parcours. J'ai cherché à me réorienter et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la chiro et après 6 années d'études de chiro, me voilà chiropracteur.
Et
voilà.
Comment t'as découvert du coup cette pratique ?
Alors, en fait, à la fin de mes 2 premières années de prépa, il fallait que je trouve une réorientation parce que je me sentais pas prête à repasser des concours, etc. Donc j'ai écumé un petit peu les salons de l'étudiant, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, donc à l'époque c'était chiro et ostéo, etc. Donc j'étais un peu perdue et puis après j'ai rencontré des étudiants, des chiro et puis je me suis assez naturellement dirigée vers cette voie-là.
Et pourquoi la chiro plutôt que l'ostéopathie ?
Parce qu'à l'époque, l'ostéopathie était pas mal réformée. Il y avait des écoles en 3 ans, des écoles en 5 ans,
d'accord,
des écoles en 6. Enfin, j'étais un petit peu perdue. Et puis, c'était l'aspect un petit peu international de la chiro, le fait que ça vienne des États-Unis. Et voilà, le fait d'avoir un diplôme plus ou moins européen qui permettait d'aller bosser un petit peu partout dans le monde entier et en Europe. Et voilà, je me suis naturellement dirigée vers la chiro comme ça, parce que j'avais des envies de voyage à l'époque.
D'accord. Et donc, pendant ces années d'études, est-ce que tu as pu pratiquer un petit peu à l'occasion de stages ou c'était plutôt de la théorie ?
Ouais, bah, alors... Les 4 premières années sont théoriques. Mmh. Et puis après, les 2 dernières sont plutôt pratiques. Justement, on intègre la clinique après avoir passé des examens d'entrée. Une petite clinique interne à l'école qui permet justement de voir les patients et de s'exercer pendant 2 ans avant de diplômer.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et pendant ces études, est-ce que t'as eu des difficultés particulières ? Est-ce que tu t'es remise en question ou ça paraissait naturel pour toi de continuer dans cette voie ?
J'ai toujours eu des difficultés par rapport à un manque de confiance en moi durant les études, enfin du moins. Je voulais absolument réussir. Donc, beaucoup de pression,
ouais,
beaucoup de stress.
Tu t'es mis une pression toi-même.
Voilà, oui. C'est ça. Et c'est cette difficulté qui m'a un peu poussée. Et c'est le fait de manquer un peu de confiance en moi. Et à côté de ça, ça a été un booster, bizarrement. Enfin, c'est un peu difficile à dire, mais je dirais que c'était ma plus grande difficulté, effectivement.
Ta propre pression.
Ma propre pression. C'est ça.
Et une fois que tu as terminé tes études... À quel moment tu t'es dit, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais tu as lancé ton cabinet.
Alors, j'ai lancé mon cabinet en 2016 depuis. J'ai diplômé en 2014. Donc, je me suis pris 1 année et demie, puisque j'ai diplômé mi-2014, pour lancer mon cabinet. J'ai fait d'abord des remplacements pour m'assurer un petit peu, pour me rassurer, disons.
Toujours la confiance.
toujours. Voir que j'étais capable. Commencer à côtoyer des patients hors de la clinique de l'école parce qu'on était très encadrés, etc.
Le relationnel est un peu différent à l'école.
Exactement. Voilà, et puis le temps de se préparer aussi au niveau de l'entreprise, parce que bon, c'est bien beau, on sort de l'école et puis on a des aptitudes médicales et paramédicales, mais C'est vrai que pour tout le côté gestion, etc., on est un petit peu noyé dans la masse.
Administratif.
Voilà. Oui. Donc ça aussi, ça a été un sacré parcours où justement, j'ai été faire une formation au sein de la Chambre du commerce et de l'industrie, ici dans le coin. Une formation en 5 jours qui nous permet aussi de... Comment dire ?
C'est gratuit ces formations ?
Non, c'était 250 €, je crois, pour les 5 jours. Et voilà, ça nous permettait déjà de rentrer dans le monde de l'entreprise et d'élaborer un business plan pour savoir où se mettre, quel type de population on souhaite viser. Et puis on a rencontré plein d'intervenants, des gens de l'URSSAF, des gens du RSI, des gens des assurances, des banques. C'était très intéressant. Donc voilà, je me suis accordé 1 an et demi pour faire tout ça. Et donc chercher un local, préparer mon dossier et puis après aller démarcher les banques, etc. aussi. Donc au-delà du côté santé, il y avait aussi toute cette partie gestion à gérer en sortant de l'école. Donc c'était...
Que tu n'as pas forcément du tout appréhendé pendant l'école ?
À la toute fin, en fait.
Ah ouais, okay.
On a 8 heures de formation à la toute fin. Après l'examen final, on nous dit « bah revenez quand même 8 petites heures pour checker tout ça, on va vous expliquer ». Mais bon, les informations sont noyées un petit peu dans la masse. On est dans l'euphorie de la réussite des examens. On ne pense pas forcément à tout ça tout de suite. Et puis,
faire le tri. Tu l'envisageais peut-être pas à ce moment-là non plus.
Exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on balance plein d'informations comme ça. Et au final, on les entend, mais on ne les intègre pas forcément. Donc, puis, je pense que c'était bien aussi pour moi de faire le petit cheminement perso derrière. Même au niveau de la culture G, d'essayer d'en savoir plus et de comprendre davantage de choses.
Et c'était remplacements qui t'ont donné envie vraiment d'ouvrir son cabinet ou c'était déjà quelque chose que...
Ouais. De toute façon, je pensais que c'était une fin en soi, il fallait que je le fasse, mais j'avais encore du mal à mettre le pied à l'étrier. Toujours ce côté manque de confiance en soi, etc. Mais bizarrement, il y a cette ambivalence chez moi parce que j'ai aussi un côté persévérant, donc... Je suis un peu comme un caméléon, si tu veux. Je peux avancer de 2 pas et être persévérante et puis ensuite avoir ce petit pas en arrière en me disant « Mais est-ce que t'es sûre ? Est-ce que tu es capable ? Est-ce que ?» Et au final, ouais, le but final, ça a toujours été d'ouvrir mon propre cabinet. Après, je savais pas si ce serait en France ou à l'étranger. Et puis, la vie a fait que je me suis installée dans le coin.
Et dans le coin, c'est où exactement ?
À Marne-la-Vallée. C'est vrai qu'on a... On n'a pas précisé.
Et la CCI, couper. Du coup, c'est celle de Marne-la-Vallée ?
Oui, de Ceris.
Du coup, tu as créé ton dossier pour aller voir les banques. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés auprès des banques ou est-ce que ça a été plutôt naturel ? Parce que tu avais gardé quand même ton emploi dont tu parlais tout à l'heure.
Oui.
En parallèle, en CDI, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, pour aller voir les banques, est-ce que ça a été... facile ou...
Ça a été une aide. Disons que déjà le profil fait que, voilà, un jeune qui diplôme, qui a fait 6 ans d'études, ça les a rassurés.
D'accord.
En plus, j'ai pu justement booster mon dossier avec le fait que je travaillais en plus le week-end pour prouver que voilà, j'étais capable. Et non, bizarrement, auprès des banques, j'ai été plutôt bien accueillie. Puis j'ai fait des connaissances à la CCI, justement, auprès de certains banquiers qui m'ont pas mal encouragée. J'ai été pas mal étonnée, sachant que personnellement, j'avais déjà contracté 2-3 prêts, donc j'y croyais pas
vraiment. Pour tes études ?
Pour mon domicile, pour mes études. Et là, je redemandais un prêt pour le cabinet.
Donc ça fait 3 prêts.
3e prêt, j'ai préparé mon dossier de façon béton. Et bizarrement, j'ai été très très surprise, mais il m'a accueillie avec un grand sourire. Et il m'a dit, bah oui, banco, allez-y quoi. Je pense que ça a aidé. Le fait que j'ai fait la formation, que
oui, parce que du coup, t'as choisi ta banque en fonction du conseiller que t'avais rencontré à la CCI, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. À la CCI, on vous apprend à créer un business plan, chose dont on n'a jamais parlé à l'école auparavant. Ensuite, on vous apprend toutes les démarches à faire, donc s'inscrire auprès de l'URSSAF, s'inscrire auprès du RSI, enfin toutes ces petites choses qui permettent de grossir le dossier, de l'agrémenter de plein d'informations hyper importantes pour un banquier. Ça le rassure énormément. Et c'est comme ça que le dossier a été accueilli à bras ouverts, quoi.
Et du coup, c'est quelle banque que tu as choisie, au cas où d'autres auditrices auraient envie de se lancer ?
Moi, c'était le CIC.
D'accord.
Et j'ai eu de la chance d'avoir un banquier plutôt à l'écoute.
Et tous tes prêts sont à la CIC ou c'est...
Non.
T'as mis tes œufs dans d'autres paniers.
Voilà, tout à fait. J'ai préféré. C'est plus... En plus, pour lui, j'ai fait les choses dans l'ordre. Si j'avais demandé un prêt pour acheter la résidence principale, par exemple, après avoir fait un prêt pro, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, il m'a expliqué plein de choses. Donc, a priori, j'avais fait les choses dans l'ordre. Donc, ouf.
Ça tombait bien. Une fois le prêt validé, c'est première bouteille de champagne ouverte, j'imagine.
C'est ça, prêt validé. Ensuite, il fallait trouver un local. Bon, le local, je l'avais déjà en tête, donc je lui ai présenté celui-ci en ne sachant pas si j'allais signer ou pas. Après, bon, ça s'est fait, donc c'était super. Donc voilà, c'était un sacré accomplissement et on était contents de pouvoir poser les premiers meubles après au cabinet.
T'as pas eu trop d'obstacles finalement pour lancer ton cabinet ?
Bizarrement non, mais je pense que j'ai bien fait de passer par
toutes
ces étapes, le remplacement, d'avoir le conseil de mes confrères et de mes confrères qui m'ont donné plein d'informations, plein de choses justement à ne pas faire aussi, qui m'ont donné plein de conseils. Donc je pense que non, ça a été assez naturel comme cheminement finalement.
Ouais, d'accord. Et après j'imagine que vient la peur du lancement, est-ce que je vais avoir des clients, comment ça va se passer ?
C'est ça. Et au final, je suis de nature plutôt réservée. Donc c'est vrai que me dire voilà, il va falloir que j'aille démarcher du monde pour démarcher du moins se faire connaître.
Oui.
Pour attirer la patientèle, puis même qu'on parle de nous.
Bah, tu sors de tes sentiers battus, parce que c'est pas ça. Du tout ce que tu apprends à l'école, là, c'est
exactement.
Pas dans tes savoir-être.
Et le fait de travailler justement dans la vente, à Leroy Merlin, avec mon côté du coup fleuriste, ça m'a permis de travailler ma communication et de faire ma petite pub à ce moment-là aussi. Quand les gens venaient acheter des bouquets de fleurs, bah, je leur disais, voilà, moi je suis pas fleuriste en fait, je suis chiro, et puis j'y allais un peu au culot, et je leur donnais ma carte avec un petit bouquet.
Ah, génial.
Voilà, et j'ai eu 2-3 patients que j'ai retrouvés, et puis parmi une des clientes que j'avais à Leroy Merlin, il s'avérait qu'il s'agissait en fait du médecin généraliste dans le pôle, enfin qui s'était installé dans le pôle dans lequel j'allais m'installer moi. Donc génial quoi.
Improbable.
J'ai dit mais super. Donc elle m'a boostée aussi, et puis voilà, c'est le hasard des rencontres qui a fait que les choses se sont super bien goupillées aussi, et voilà, c'était je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans l'histoire.
Ouais, tu t'as créé ta chance aussi, parce que si t'avais pas parlé de ça à Leroy Merlin, t'aurais pas su que...
C'est vrai. Exact.
C'est une chance que t'as créée toi-même quand même.
C'est ça, aussi, quelque part. C'est vrai que là, je me suis donné un petit coup de pied aux fesses en me disant, voilà, il faut y aller, de toute façon, il faut sortir de ta réserve. Tu as choisi un métier qui t'oblige à aller au contact des gens. Donc j'ai mis mon côté timide et mon côté réservé de côté, et là j'y suis allée un petit peu plus au culot, et au final ça a très bien fonctionné.
Et puis du coup c'est hyper complémentaire le travail que t'opérais chez Leroy Merlin.
Tout à fait.
Il t'a permis de travailler cette partie timidité pour
ça.
Que quand tu ouvres ton cabinet tu sois beaucoup plus à l'aise aussi dans tes relations avec les patients.
Ça. Complètement, tout à fait, ça m'a permis... d'acquérir plus d'assurance, plus de confiance. Vraiment, je pense que ça a été très salvateur et plutôt complémentaire dans mon parcours professionnel, entre guillemets, si on peut appeler ça.
Si, c'est exactement ça qu'on veut.
Mes 3 petites années d'activité.
Il faut bien commencer quelque part. Hein.
C'est vrai.
Et donc pour ton lancement, tu en as parlé à Leroy Merlin. Est-ce que tu as créé des supports en particulier et d'où vient ta clientèle en majorité ?
Alors, pas énormément de support finalement, beaucoup de bouche à oreille, comme beaucoup dans ce type de profession. Après, effectivement, comme tout le monde, j'ai créé une page Facebook que j'ai essayé de diffuser au maximum pour que les gens aient juste une vision du cabinet, qu'ils voient juste qu'il existe, voilà. Puis c'est une forme de carte de visite digitale, quoi, finalement. Ça rassure pas mal. Et puis, c'est vrai que ça permet aux autres personnes de donner des avis, etc. Donc, j'ai pas mal de gens qui viennent parce qu'ils m'ont dit, voilà, on a vu des avis positifs. Vous étiez la seule à avoir des 5 étoiles. Alors, on est venus.
Comme quoi, ça fonctionne, les étoiles.
Exactement.
Sur Facebook.
Tout à fait. Il y a Facebook. Et puis après, voilà, il faut multiplier les réseaux, se faire voir, les pages jaunes. Doctolib aussi.
Ah, tu es abonnée à Doctolib ?
Oui, tout à fait. Ça permet.
Et t'as vu une différence,
Oui, puisque les patients prennent leur rendez-vous de façon autonome, sans appeler, parce que c'est une corvée pour certaines personnes de prendre le téléphone et de passer un coup de fil, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous. Donc, c'est vrai que c'est hyper commode. Les gens peuvent prendre un rendez-vous à n'importe quelle heure. Donc, voilà. Il y a ce côté un peu digital aussi où il faut multiplier les canaux pour essayer d'être le plus visible. Et puis la machine se met un petit peu en place toute seule aussi, au final.
Donc, pour toi, les clients, ils viennent plus du bouche-à-oreille que quand même d'Internet pour l'instant ?
Oui. Ouais. Je dirais que c'est plutôt ça. Je dirais que, ouais, on est sur du 70-30. 70% bouche-à-oreille, 30% Internet.
D'accord. Et toi, comment tu abordes les choses dans ta vie quotidienne, soit au cabinet ou dans ta vie personnelle, dans tes valeurs que tu veux mettre en avant auprès de tes patients ou...
Alors, moi, je veux que mes patients aient confiance en moi. Donc, j'essaie d'instaurer un rapport de confiance entre nous. Donc, je leur explique énormément de choses. Avant même de les toucher, je mets en place... justement les bases du métier, je leur explique absolument tout.
Oui, parce que c'est pas un métier qui est très connu en France, on connaît beaucoup d'ostéopathes, mais les chiropracteurs un peu moins quand même.
Tout à fait.
Puis ça. Aussi le fait que on soit, alors je sais pas, tu vas peut-être me dire si je me trompe ou pas, mais je sais que la mutuelle peut rembourser des séances d'ostéopathie. Je sais pas comment ça se passe sur la partie chiro.
Et bah de plus en plus aussi la chiropraxie. En général, quand ils remboursent l'ostéopathie, ils remboursent également la chiropraxie. Donc okay. Ça, il faut se renseigner auprès des mutuelles. Et c'est vrai que tu l'as souligné, la chiro est beaucoup moins connue que l'ostéopathie, donc il faut travailler un petit peu l'éducation à la patientèle, les rassurer, bien leur expliquer que c'est de la santé, que c'est pas du crack, que c'est pas des manipulations pures. Et justement, je prends le temps lors de la première séance à bien expliquer la profession aux patients. Et je pense que c'est ce qui les aide à prendre confiance et du coup, c'est ce qui permet aussi de garder une bonne impression. Et c'est ça aussi qui va jouer sur le bouche à oreille et c'est ce qui va permettre de faire grossir ensuite la base de patientèle aussi sur les années à venir.
Et ce que tu me disais en off, c'est que c'est difficile de fidéliser dans ces professions-là. Oui. Parce que tu viens parce que t'as mal, tu viens pas forcément parce que pour anticiper ou...
C'est vrai, puisque les gens... je pense que ça fait partie du train-train quotidien. On vient parce qu'on a mal et on pense pas forcément à la prévention et... le premier réflexe, c'est d'appeler que lorsque l'on est déjà verrouillé, alors que, en général, si on prend le temps de faire une petite séance dans l'année, voire deux, même si on a pas mal du tout, ça permet d'avoir un meilleur confort de vie. Et ça, les gens ont encore du mal à le comprendre. Donc ça, pareil, il faut l'expliquer, il faut le répéter, il faut le rabâcher. Mais au final... On voit que le message est quand même intégré au bout d'un moment. Moi, je vois j'ai des patients qui me rappellent alors que je ne les ai pas vus depuis un an et demi. Je les ai vus au tout début du cabinet et là, ils rappellent. Donc,
là, c'est plutôt une sacrée victoire quand tu vois ça.
C'est ça. On se dit, c'est pas perdu. J'ai passé 2 heures à tout lui expliquer, mais au moins, il a tout compris.
ça fait plaisir.
Exact.
Et du coup, donc, tu parles de cette valeur qui est importante, la confiance. Est-ce que tu en as d'autres que
la confiance, que tu mets en place ? Oui, bien sûr. Il y a surtout l'écoute. Si un patient a besoin de prendre 1h30 à me parler de ses problèmes...
Oui, parce qu'on est d'accord, ils viennent te voir parce qu'ils ont mal.
Ouais.
Ils ont une douleur.
Ils ont une douleur quelque part.
Ils viennent pour te voir parce qu'ils ont une douleur localisée. Mm-mm. Mais cette douleur, elle est originaire de... d'autres choses,
ouais, j'imagine. Ça peut être plein de choses. Il y a le facteur stress, il y a le facteur surmenage. Donc, il y a aussi l'écoute qui est très, très importante à mettre en place. Et je pense que c'est en lien avec la confiance. Il faut que le patient soit à l'aise, en fait. C'est vraiment ça. Il y a une question de feeling aussi. Il faut être attentif à chacun, vraiment, pour réussir dans ce métier.
Et donc tout à l'heure, tu disais que l'une de tes difficultés, c'était les études. Mm-hmm. Mais finalement, est-ce que tu dirais que c'était ta plus grosse difficulté jusqu'au lancement de ton cabinet ? Parce que finalement, ça s'est assez bien déroulé jusqu'à aujourd'hui.
Disons que c'était la logistique par rapport aux études. Parce que oui, il y a eu la masse de travail, mais il y avait aussi à côté bah, toute la logistique, dans le sens où faut payer les études, faut payer les bouquins, faut payer bah, l'essence, la voiture, enfin toutes ces petites choses.
C'était peut-être l'argent en fait qui te mettait une pression.
Peut-être aussi, en tout cas, je sais que j'ai gardé justement cette double activité pour pouvoir me payer tout ça, parce que je viens d'une famille où mes parents ne pouvaient pas forcément me payer mes études et tout ça et tout ça. Donc, j'ai dû me débrouiller. Donc, il y a aussi ce côté un peu persévérance dont je te parlais tout à l'heure. Et ce côté financier était très, très important, effectivement, pour les réussir. En fait, j'avais pas le choix. Si je voulais réussir ce métier-là, il fallait que je puisse me les payer. Il fallait que je me donne les moyens de réussir. Et il y avait cette pression, justement, qu'un bah, étudiant lambda qui n'a juste que ses études à se soucier... n'a pas, donc il y avait tout le côté logistique, gérer les finances pour pouvoir se payer les études, et à côté réussir les études pour finalement réussir à ouvrir son cabinet.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup de cheveux blancs.
Ils se voient pas, je te rassure.
Ouais, c'est parce qu'ils sont cachés. Mais c'est vrai que voilà, gérer tout ça à 20 ans, voilà quoi, on se dit bon,
ouf. Bah, tu grandis vite quoi, dans ces
voilà,
cas-là.
Voilà, je suis contente d'avoir réussi. On est contente d'être arrivée à la fin.
Et du coup, la prochaine question, c'est un peu ce que tu viens d'évoquer, mais ton plus grand succès, c'est d'avoir terminé tes études, justement d'avoir réussi tes études ou d'avoir lancé ton cabinet ?
Je pense que c'est un peu le tout. C'est d'avoir réussi à terminer mes études, à avoir lancé mon cabinet, et ce, toute seule, comme une grande.
Là, tu ressens un petit peu de fierté quand même voilà. À ce moment-là. Ouais.
Il y a cette fierté-là, et puis il y a la fierté dans les yeux de la famille, quoi, de se dire bah voilà, la petite dernière de la fratrie a réussi sans l'aide de personne, donc c'est bon, elle peut voler de ses propres ailes. Je pense que c'est surtout ça.
Puis ça fait du bien de voir dans les yeux des autres qu'on a réussi.
Bah, surtout que, voilà, ce que je te disais, la confiance en moi, elle n'était pas à l'apogée à la base, et c'est vrai que d'avoir le soutien de la famille, la fierté de la famille, d'avoir l'approbation de tous et de voir que tout le monde est content pour moi, ouais, effectivement, c'était hyper, hyper valorisant. J'étais très contente.
Dans tout ton parcours, j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui t'ont inspirée, peut-être un livre, un film, une personne en particulier qui t'aurait inspirée et qui t'aurait motivée.
Alors, quand j'ai lu la question, effectivement, je me suis fait la réflexion comme quoi je ne m'étais jamais posé la question. Donc, j'ai cherché un petit peu dans mes souvenirs. Et effectivement, là, c'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a inspirée, c'était Les figures de l'ombre. Ça parle, en fait, de femmes noires qui vivaient au temps de la ségrégation et qui travaillaient pour la NASA, qui
étaient... Ah oui, j'en ai entendu parler.
Voilà. Qui étaient ce qu'on appelle des calculatrices, qui étaient là pour calculer les trajectoires des fusées, etc., etc. Et c'est plus ce côté, malgré les barrières et les obstacles que la société veut mettre entre vous et votre objectif, bah, c'est des femmes qui ont bossé dans l'ombre pendant X années et qui ont fait ce qu'on leur demandait pendant X années, et au final, elles ont atteint des sommets et elles ont atteint un objectif de carrière phénoménal, et elles sont aujourd'hui connues pour ça, et j'ai trouvé le message très très beau en sortant du cinéma, ou je sais plus si je l'ai vu au cinéma ou bref à la maison, et je me suis dit waouh, voilà, c'est ça,
c'est inspirant,
c'est inspirant, exactement, et voilà, et je pense que c'est
c'était avant ou après d'avoir ouvert ton cabinet?
C'était après. Et je pense que... Ça m'a confortée. Je me suis un petit peu identifiée, je pense. Comme je te disais, j'avais pas un parcours tout tracé. J'étais perdue à un moment donné dans mon projet de carrière, etc. Je voulais être kiné, puis finalement, j'ai pas pu. Donc, j'ai dû rebondir. J'ai trouvé une voie qui me plaisait. Il fallait que je trouve des moyens pour y parvenir. Et voilà, les moyens financiers, etc., trouver un job à côté des études, enfin, c'était un parcours enrichissant, fatigant, mais enrichissant, et je pense que je me suis pas mal identifiée à ces femmes-là.
Ouais, j'ai l'impression que la ligne directrice de ton parcours, c'est quand même la persévérance, quoi.
C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. La persévérance et le travail et la rigueur.
Et comment tu... Parce que tu as quand même eu tes études, ton travail le week-end, plus ton travail le week-end, on n'a pas dit, mais que tu as continué même après avoir ouvert ton cabinet.
Exact.
À quel moment, du coup, tu as décidé d'arrêter ton CDI pour te consacrer totalement à ton cabinet?
Alors, donc là, c'est plutôt récent. C'est, ça a commencé, ouais, j'ai commencé à mûrir ça dans ma tête l'été dernier, donc l'été 2017, après une année et demie d'ouverture de cabinet, où voilà, je me suis dit, j'ai pris un petit recul sur moi-même et je me suis dit, voilà, où est-ce que j'en suis? Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'avais un taux de remplissage assez satisfaisant du cabinet pour me verser au moins l'équivalent de ce que je gagnais dans mon deuxième travail le week-end. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je passe un cap, même si ce n'est pas rassurant, même si ça fait peur. On se dit que voilà, on peut le faire et...
Les chiffres parlent.
Les chiffres parlent, voilà, il faut se lancer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, à partir de l'automne 2017, il faut que je puisse me dégager un salaire à hauteur de ce que je gagne dans mon travail à l'Orléans. Mmh. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, depuis, ça a encore augmenté. Donc, je suis contente.
Et, c'est que tu as fait le bon choix, quoi.
Et c'est que j'ai fait le bon choix. Et effectivement, je suis à 100% chiro maintenant. Et je suis plus fleuriste à temps partiel. Et chiro de l'autre côté. Même si c'était sympa, mais je pense que j'ai fait le tour de l'autre côté. Il fallait que j'avance.
Oui, et puis là, maintenant, t'es chiro à 100%, quoi.
Exactement. Exactement. Chiro à 100%, je me lève chiro, je dors parfois chiro. Et bon, des fois, je fais des pauses aussi.
Justement, en parlant de pauses, comment tu trouves ton équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Puisque j'imagine que ça devient une passion, quoi.
Ouais, bah oui. Et puis surtout, ça va beaucoup mieux depuis que justement, je peux en vivre, donc oui. De me dire que voilà, j'ai beaucoup travaillé pour ça et que maintenant je peux en vivre et que je peux profiter de ce que je gagne voilà, au quotidien, faire des sorties, faire des voyages, tout ça, grâce à ce que je fais, grâce à tout ce que j'ai entrepris et tout ce que j'ai fait, bah, du coup c'est hyper valorisant, je suis hyper contente, c'est super.
Et du coup, dans ta vie, est-ce qu'il y a une citation qui fait écho à ton parcours ou à ce que tu vis en ce moment?
Bah justement, j'en connaissais pas une particulièrement, donc j'ai fait mes petites recherches. Et j'en ai une qui m'a parlé. Et c'est celle-ci. Alors, elle dit « Que la ligne droite soit ma devise. Aller droit, sans honte, sans jalousie, sans mystère. Aller droit avec persévérance, sans se lasser, sans craindre de servir les autres, ni d'en être deviné, envié ou raillé. Aller son chemin avec fermeté, mais douceur. » Et je pense que ça résume à peu près mon profil, et en tout cas mon parcours.
Et parce que tu fonces, t'as peur mais t'y vas quand même.
Exactement.
Avec douceur, mais t'y vas étape par étape en respectant aussi ton cheminement, quoi.
C'est ça, doucement mais sûrement, en assurant les bases. Je pense que c'est...
Et tes arrières aussi.
Et mes arrières, c'est ça.
Très joli, j'aime beaucoup.
Merci.
Est-ce que du coup, en parlant de cette citation qui est assez inspirante pour les auditrices, tu aurais un conseil particulier à donner aux femmes qui n'ont pas encore sauté le pas ou qui aimeraient évoluer dans ce sens-là, soit parce qu'elles voudraient monter leur entreprise, soit parce qu'elles ont un projet et qu'elles aimeraient se lancer?
En tout cas, si elles ont un projet, il faut y croire à fond. Il ne faut surtout pas se laisser... freiné par les détracteurs.
Oui, parce qu'il y en a quand même.
Voilà, oui. C'est ça. Il faut pas se laisser freiner par ses craintes non plus. Il y a aucune raison pour que ça échoue. Et puis s'il y a des étapes qui échouent, par exemple, c'est pas grave. Il faut continuer étape par étape, y aller progressivement par palier et pas se laisser décourager. Et vraiment, je reviens sur cette persévérance, cette ténacité, cette rigueur. À partir du moment où on croit en quelque chose et que c'est en nous, je vois pas pourquoi ça ne réussirait pas. Faut vraiment pas avoir peur. Faut y aller.
Ok, super. J'espère que ça donnera envie à certaines de se lancer.
J'espère aussi.
Le podcast se termine. Merci beaucoup Amélia pour ses confidences et pour tous ses conseils.
Mais de rien, merci à toi.
À bientôt. Merci, au revoir.
Encore merci à Amélia pour ce témoignage inspirant. Nous vous conseillons vivement de passer à son cabinet à Coupe-Vray dans le 77 pour soulager vos douleurs ou pour les prévenir. Retrouvez-la sur sa page Facebook, cabinet de chiropraxie Coupe-Vray Amélia Chung. Vous écoutez le podcast Madame Innove dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et n'oubliez pas de visiter madameinnove.com.